assez gênante pour les représentants politiques. Des règles qui prévoient des contrôles plus stricts des citoyens, de la révocabilité, de ce que disait Johan tout à l'heure, une série de mesures qui instaurent des contrôles plus stricts des citoyens sur les élus. Et donc cette nouvelle constitution ne sera pas promulguée. Et les citoyens islandais, apparemment, ne sont pas en train de redescendre dans la rue pour exiger la promulgation de cette constitution. Et finalement, la croissance économique est revenue, les choses ont repris un peu leur rythme de croisière. Et donc cette rénovation démocratique qui a failli être possible en Islande, apparemment pour l'instant, a échoué. Donc on a vraiment un exemple finalement un peu décevant de rénovation radicale des règles du jeu démocratique. Mais je crois que l'Islande est vraiment un cas d'école qu'il faut étudier et duquel on peut s'inspirer, en particulier évidemment pour le traitement de la dette laissée par les banques, qui a été effectivement assez radicale dans le cas de l'Islande.
François Ruffin, les mêmes observations que Coutreau ?
Dans le dernier numéro de Fakir, on fait...
Qui n'est pas métro, il faut que ne le confondez pas, voilà. Si vous êtes des auditeurs distraits.
On fait un comparatif entre les faillots et les cancres. Les pays qui sont des faillots, qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire tous ceux qui suivent le FMI, qui suivent l'Union européenne, qui suivent la Commission, c'est la catastrophe. Tous ceux qui ont été des cancres, ou qui sont des cancres, qui décident de s'asseoir sur ces méthodes-là, de faire un bras d'honneur au FMI, ils s'en sortent un peu mieux. C'est pas le paradis sur Terre, l'Argentine, l'Islande, la Malaisie. Mais c'est mieux que ça n'a été au milieu de la tourmente monétaire des années 90, la Corée du Sud, que le Portugal aujourd'hui, que la Grèce, ainsi de suite. Donc je pense que là, il y a une vraie leçon au présent à tirer. C'est effectivement, si on est des faillots, on risque d'aller dans le mur tranquillement.
Je voudrais quand même, pour finir, vous poser la question suivante. Vous avez... François Hollande, qui vous a écouté là, tous les trois, et qui dit ils sont quand même pas mal ces gars-là. Il me rappelle quelque chose que j'avais dit l'année dernière au Bourget, c'était quoi déjà ? Ah ! Mon ennemi, c'est la finance. Je vais leur demander de venir me voir et de me dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ça, par rapport à la dette. François Ruffin.
Pour le convaincre, enfin, je lui dirais que c'est par ses mesures iconoclastes qu'il deviendra un grand homme avec sa statue sur les places de nos rues, comme l'ont aujourd'hui Colbert, Sully, Talleyrand, des noms de plaques, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas un grand homme en se laissant porter par les flots des vents contraires, mais en les affrontant, quoi.
Il y a des mesures qui nous semblent devoir être mises en débat qui ne sont pas liées à la frontière, à des frontières nationales. C'est la question, nous, ce qu'on appelle la taxe kilométrique. C'est-à-dire, on avait la taxe Tobin, qui est en train d'avancer très lentement, mais qui est en train d'avancer, qui est une taxe sur les transactions financières. La taxe kilométrique, c'est une taxe sur la circulation, non pas des flux financiers, mais des marchandises, et une taxe proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus, indépendamment de la frontière. Que vous alliez de Marseille à Lyon ou de Marseille à Turin, finalement, la distance va être la même. Ce qui compte, c'est la distance, ce n'est pas la frontière. Et là, avec une taxe kilométrique, on renchérit le coût des transports, donc on affaiblit l'incitation à la délocalisation, et on lutte contre le libre-échange, mais en évitant de sacraliser la frontière.
Les irréalistes, ce sont eux. C'est-à-dire, ce sont tous ceux qui nous traitent d'irréalistes quand nous disons qu'il faut de l'inflation, quand nous disons qu'il faut des banqueroutes, quand nous disons que tous ces outils sont à réutiliser. Ils nous traitent d'irréalistes, mais en fait, l'irréalisme, c'est eux. Parce que l'austérité... Dans l'histoire de France, je ne l'ai pas vu marcher, moi. L'austérité, aujourd'hui, en Europe, ça mène à la catastrophe. Donc l'irréalisme, c'est ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir en fonçant plus loin dans le même mur et en appuyant sur l'accélérateur, quoi.
Merci à tous les trois. Merci. Salut. Merci. Voilà, merci à toutes et à tous. C'était Avant la dette, vive la banqueroute. Merci à nos invités de Attaque, Thomas Coutreau et Yohann Dubigeon, co-auteurs avec Geneviève Azam et Nicolas Heringer de Leur dette, notre démocratie aux éditions Les liens qui libèrent. Et puis merci aussi à notre François Ruffin qui a co-dirigé avec Thomas Morel le livre Vive la banqueroute, comment la France a réglé ses dettes de Philippe le Bel au général de Gaulle, paru le 16 mai dernier aux éditions Fakir. Sur le même sujet, vous pouvez visionner un entretien vidéo de François Ruffin avec Frédéric Lordon sur le site Fakir Presse Info. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Fabien Laléouze, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de la base Si J'y suis au 01 56 40